faut cultiver notre jardin, dit Voltaire à la fin de Candide. Et s'il en allait autrement, si c'était le contraire, je ne suis pas une plante, mais si c'était au contraire le jardin qui me cultive, moi, qui m'inculque des formes inattendues de vigilance. Je n'avais encore jamais réfléchi au rouge du pétunia. Pas de nuages au plus chaud de l'après-midi, le pétunia devient rouge sang, le rouge d'après le crime passionnel, le rouge maléfique, le rouge noir sur le sable de l'arène où l'on traîne le cadavre du taureau. Le vent qui tourne, tramontane, menace d'orage, ciel de cendre, le pétunia se fait soudain acteur, un noir de plomb envahit le rouge, il y a du désastre dans l'air, on m'aura prévenu. Cess Noteboom est ce soir notre invité à l'occasion de son dernier ouvrage intitulé 533, le livre des jours. Il est en compagnie de son traducteur dans ce studio, Philippe Noble. Et comme chaque soir, on commence en musique avec un chanteur qu'aime beaucoup Cess, mais nous aussi, il s'appelle David Bowie.
Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll at a solo set. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy.
There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie.
C'était comment la vie dans les monastères augustins quand vous étiez petit, Cees Noteboom ?
J'étais pas tellement petit.
Enfin, pas très grand.
Eh bien, c'est sévère parce que c'était un internat. On avait droit de 3 fois l'année de vacances et on se levait à 6 heures pour aller à la messe. Et après des études et après petit déjeuner. C'est sévère quand même.
Coucher à quelle heure le soir ?
9 heures.
Quand a commencé votre observation des étoiles ?
Peut-être je les ai vues avant de les regarder, comme nous tous. Là, à l'île de Menorca, où j'ai écrit ce livre-là, j'ai tout le temps et tout le ciel. Parce que là, il y a beaucoup plus de lumière qu'à Amsterdam ou à Berlin.
Parce que vous vivez entre les trois ?
Je vis entre Amsterdam, l'Allemagne et Menorca.
Avant, vous avez beaucoup, beaucoup voyagé. D'ailleurs, de ces voyages, vous avez fait des livres. Le premier fut initiatique. Je crois qu'on peut employer ce mot un peu fort.
Oui.
Pourquoi êtes-vous parti en autostop à travers toute l'Europe ?
Je crois par instinct. J'avais pas une raison exacte pour travail ou quoi, non. J'ai simplement dit au revoir à ma mère et je suis parti pour, de certaines façons, jamais revenir. Jusqu'à maintenant, ça a été la même chose. Maintenant, ça ne va plus, peut-être. Mais l'année dernière, on était encore à Machu Picchu, Pérou, Bolivie. Et peut-être, ça doit finir tranquillement dans un jardin de Menorca.
Ben ce jardin, manifestement, c'est l'infinité du monde. Si l'on en croit les pages que vous y consacrez dans votre dernier ouvrage, il y a le monde entier dans ce jardin où vous vivez, jour et nuit.
Oui, j'espère. C'est que je ne l'ai pas regardé de cette façon. Moi, je suis simplement là. C'est pour cela que j'ai dit que c'est le jardin qui m'apprend comment vieillir, par exemple.
Ça veut dire quoi, vieillir ?
Ça veut dire au revoir à beaucoup de choses.
Mais pourquoi au revoir ? Vous êtes encore jeune ?
Oui, mais ici, dans le cerveau peut-être, mais pas dans le mouvement.
Au revoir au voyage ? Un jour ou l'autre ?
Peut-être. Il y a quelques années que j'ai écrit une ligne dans un poème, comment dirais-je en français ? Maintenant, on peut nous être mieux comprendre.
Jamais cesser de marcher.
Oui. Et juste après que j'avais écrit ça et publié ça, j'ai eu un problème avec marcher. Alors là, il y a un stop, apparemment.
Mais ce stop dont vous parlez permet peut-être la méditation que vous n'aviez pas auparavant lors de vos voyages précédents.
Je crois que j'ai toujours médité pendant les voyages, parce que j'ai dit, non, pour un voyageur seul, de certaines façons, les chambres d'hôtel sont des cellules de moines. On est là, on est seul, on peut penser. On a vu beaucoup de choses, on peut réfléchir. Et puis écrire ce qu'on voulait. Écrire sur ce pays, par exemple. Mais on a été assez partout.
Vous êtes parti très tôt, Cees Noteboom, au Suriname. Pourquoi ? Et dans quel but ? Et qu'en avez-vous retenu ?
Suriname, c'est le pays à côté du Guyane française. Même espèce de gens, mais avec une histoire coloniale complètement différente. J'étais amoureux d'une jeune fille et je me suis engagé comme matelot dans un bateau pour y arriver. Ça, là, j'ai réussi. C'était pour demander permission à son père, parce que c'était dans ce temps-là, parce qu'il y a quand même, il y a longtemps. Et le père, qui est devenu un ami, c'est ce qu'il m'a dit. Tu es un ami pour laver, mais tu ne vas pas marier ma fille. Là, sur un autre bateau de cette compagnie, je suis allé à New York, et elle est venue de la Hollande. Elle était surinamoise, mais vivait en Hollande. Et alors on s'est marié à New York, dans Harlem, parce que c'était le meilleur marché.
À Harlem ?
À Harlem, oui. Différence entre, en ce temps-là, hein, je parle de 57. La différence était de 5 dollars à 50 dollars. Park Avenue, 50 dollars. Harlem, 5 dollars. Alors, eh bien, ça a duré pas trop longtemps. Le père avait raison.
Mais... Les pères ont toujours raison.
Non, mais il y avait un moment que le père devait choisir entre si Beurre sera citoyen d'être des Pays-Bas ou de Suriname. Il a opté pour Suriname, mais après, il y a eu une révolte là-bas. Il voulait entrer en Hollande. Et mon ami, dans ce temps-là, était le ministère des Affaires étrangères. Et nous avons une chanson, disons, un hymne national, au nom d'Orange. Guillaume d'Orange ouvre la porte. Et le père m'a écrit, maintenant que je dis « ouvre la porte au nom d'Orange », on me laisse pas entrer. J'ai envoyé cette lettre au ministre et il a fait ouvrir la porte. Et le père est mort en Hollande. Et elle vit encore, on est encore amis, elle vit à Edinburgh. Alors vous savez tout maintenant.
Pas tout à fait, parce que votre vie est un roman, c'est Notre Boom. Depuis l'âge de 17-18 ans, vous êtes parti sur les routes de l'Europe et sur les routes du monde entier. Vous avez conçu une œuvre très abondante, en français, plus de 60 livres, tous traduits par Philippe Noble. Vous êtes traduit...
60, on est modeste. Pas 60.
Non, oh, si.
Non, une bonne vingtaine. Moi, j'en ai traduit une bonne vingtaine.
Oui, mais il y en a plus que ça.
Il y en a d'autres, oui.
Et l'œuvre de Cesse est traduite dans le monde entier.
Absolument.
Vous comprenez cette attirance pour tout... Pour toutes les langues, vous qui en parlez autant, vous êtes surpris de vous voir traduit dans de nombreuses langues, Cesse Notre Boom.
Si je dis non, ça ne m'étonne pas, ça serait très arrogant.
Mais vous n'êtes pas du tout arrogant.
Non, mais je comprends qu'il y a des gens qui veulent lire ce que j'écris, c'est très bien. Mais ici en France, j'ai eu toujours une très bonne réception, depuis les débuts. Vraiment, je crois, non ? Et au Corée.
Et en Corée. Mais c'est peut-être pour une de multiples raisons. C'est que votre écriture se déploie dans plusieurs registres. Il y a des romans, il y a des essais, il y a de la poésie. Et il y a des livres, et notamment celui qui vient de sortir ces jours-ci, qui s'intitule 533, le livre des jours, se déploie de plus en plus dans une mixité de registres. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de la philosophie, de l'observation de la nature, du ressourcement, de l'observation, et surtout, quelque chose qui m'a beaucoup frappée et que j'ai beaucoup apprécié, c'est un éloge de la lenteur. On a l'impression, vous qui avez parcouru le monde entier par tous les moyens techniques qui le permettaient, maintenant, vous appréciez la lenteur de l'existence. Qu'est-ce que ça veut dire, la lenteur, pour vous, Cesse Notre Boom?
Quand vous avez commencé avec cette citation que le jardin fait mon éducation maintenant, c'est ça la lenteur. Parce que le jardin n'a pas...
Il n'est pas pressé.
C'est bien, parce que ça rend un peu plus paresseux. C'est bien qu'il est là. Parce que je peux demander, oups là, et là ça vient, parce que moi je le cherchais dans mon cerveau. Non, mais par exemple, j'ai planté... Il y a 55 ans, deux palmiers. Et là, les palmiers qui vont de plus en plus haut. Et j'ai essayé de les traiter toujours, jusqu'au moment que c'était plus possible, parce qu'ils étaient trop hauts. Il faut couper les palmiers, chaque année, toutes les branches. Il y a les branches avec des piquants très hauts. À ce moment-là, j'ai compris que je devrais laisser, et que je devrais... On a besoin d'un escalier, et après, ça devient de plus en plus difficile. C'est ça, les choses, qu'on apprenne les choses de la manière la plus naturelle possible.
Alors, on sait que votre premier livre qui a obtenu un grand succès international s'intitulait « Philippe et les autres », c'était votre histoire autobiographique un peu romancée. Depuis, il y a eu beaucoup d'ouvrages, donc extrêmement différents les uns des autres. On s'y perd un peu pour savoir qui est le vrai Cesse Notre Boom. D'ailleurs, il y a un intellectuel amoureux de votre littérature qui s'appelle Rudiger Safranski, qui a écrit un livre qui s'intitule « J'avais bien 1000 vies et je n'en ai pris qu'une ». Avez-vous vraiment 1000 vies, vous, Cesse Notre Boom?
1000 vies?
Oui.
Non, c'est un extrait d'un poème. Ça veut dire que dans la vie, on a énormément de possibilités. Et qu'entre les possibilités, on choisit ce qui, à la fin, a été ta vie, non ? Alors, j'aurais pu me marier 2 fois ou 3 fois, j'aurais pu pas devenir écrivain. Il y a toute une sorte... Mais c'est seulement à la fin que la décision a été faite. Or, dans ce sens-là, j'ai dit... il y avait un certain nombre de vies possibles, et je n'ai choisi que la mienne, finalement. Mais on le sait au dernier moment.
Que veut dire écrire pour vous aujourd'hui, Cees Noteboom ?
Je crois que ce que je vois, ce que je regarde, ce que je fais, c'est tout en connexion encore, pour toujours, avec écrire. Si on écrit ou écrit pas, parce que, en étant poète, on voit le monde dans une certaine façon, qui, j'espère, qui est authentiquement mienne. Et dans ce sens-là, oui, je suis toujours écrivain.
Je vous propose d'écouter quelqu'un que vous citez beaucoup dans vos ouvrages, c'est Jorge Luis Borges. Il va s'exprimer sur la prose et la poésie, la poésie étant plus proche de lui que sa propre prose. Et c'est peut-être un écho à votre propre pratique de l'écriture. C'est une archive INA qui n'a pas de date.
Je me considère comme un poète. Mais ceux de mes amis qui sont des poètes pensent que je suis un prosateur et que je suis un intrus dans la poésie. Ceux de mes amis qui sont des prosateurs me considèrent plutôt comme un poète. Mais je ne sais pas s'il y a une différence essentielle entre la prose et le vers. Il y a une différence de forme, tout simplement. Mais l'émotion qui cause une page en prose n'est pas différente de celle qui cause un poème. Mais je sens que ma poésie est plus immédiate et plus proche de moi que la prose. Ma prose est toujours quelque chose de fabriqué, quelque chose que je fais. Tandis que j'ai l'impression, peut-être fausse, je sens que la poésie émane de moi, une source en moi, qu'elle coule d'une façon plus directe et plus pure. Tandis que dans la prose, il y a toujours l'intervention de l'intelligence. Je sens que la prose est un peu fabriquée. Et la poésie, non, je crois que je suis plus près de mes pièces en vers que de mes pièces en prose.
Et vous, Cees Noteboom, vous êtes plus proche de votre propre poésie que de vos écrits en prose ?
Oui, c'est vraiment, c'est ce que je pense. Ce qu'il dit, c'est vraiment ça. On se met, quand j'écris un roman, il faut se mettre. Au moment que je me mets pour écrire une page de roman, je ne pense pas à la poésie. Mais quand j'écris une page de poésie, je ne pense pas au roman. Mais dans une période que j'écris un roman, je ne suis pas ouvert pour la poésie. Mais en même temps, c'est aussi pas vrai parce qu'il y a, par exemple, Eliot a dit « There is a time that poetry no longer happens to you. » Cette idée que la poésie te passe, tandis que écrire en prose, c'est du travail, il faut se mettre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de l'inspiration, c'est pas ça. Ce sont deux mondes complètement différents. Je ne dis pas « Ah, lundi, je vais écrire quelques poèmes », non. Mais je dis, je suis en train d'écrire un roman. J'espère que lundi, ça ira bien. Mais il faut se mettre, essayer et faire.
Dans un livre de poèmes qui est récemment traduit en français sous le titre « Le visage de l'œil », vous écrivez ceci. « Le poète est un moulin. Par lui, le paysage se fait mot. Pourtant, il pense comme toi et ses yeux voient la même chose. » Et ensuite, le soleil qui s'écrase dans la bouche du cheval. Pensez-vous vraiment, Cees Noteboom, qu'un poète comme vous pense comme moi ou comme les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent? Ou croyez-vous à une sorte de don de voyance ou d'abandon particulier par rapport à la beauté de la nature ou du paysage qui vous sont particulièrement sensibles?
Je pense vraiment que... Quand je suis dans un bus à Paris, je vois tous ces gens, ils pensent quelque chose. Et je ne crois pas que ces pensées sont très loin de ce qu'on pense tout le monde. Seulement, le moment où on va s'exprimer, Là, il y a peut-être une différence vu éducation, vu talent peut-être, mais je ne crois pas à une différence essentielle. Je crois que c'est très bien qu'on peut pas voir tout le temps ce que pensent tous les autres avec lesquels. Mais si eux, ils pouvaient l'exprimer de façon, disons, acceptée généralement comme poésie, ça serait très surprenant ce qu'on entendrait.
Donc vous pensez que tout le monde est poète ?
Peut-être, dans une certaine façon, mais tout le monde a quand même des expériences. S'ils veulent les exprimer, c'est autre chose.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue. Nous allons écouter un grand interprète dont vous parlez abondamment dans ce dernier ouvrage intitulé donc 533, le livre des jours. Il s'agit de Glenn Gould. Nous allons l'écouter dans la sonate numéro 62 en mi bémol de Haydn.
Quelque chose de très extraordinaire qu'on Glenn Gould, c'est qu'il murmurait en jouant.
On l'entend là.
Oui, et de temps en temps assez fort, comme s'il pensait que c'était pas assez qu'il jouait. Encore. Et là, pour les techniciens, pendant l'enregistrement, devait être une sorte de cauchemar. Parce que si on amène un petit enfant dans un concert et l'enfant commence à chanter légèrement avec la musique, mais lui, oui, comme si c'était pas assez. Très intéressant.
Comment la musique vous accompagne-t-elle, Cees Notenboom ?
Beaucoup. Oui, beaucoup. Surtout de la musique moderne, de Courtac jusqu'à... Enfin, et j'avais demandé à Hennigan, non, avec Rhyme Bertalier, je l'ai, maintenant elle est devenue très grande, elle dirige des orchestres, mais elle a une voix incroyable de sirène dans ce Socrate satique.
On va en écouter un petit morceau.
J'espère, si. Mais je pensais que peut-être c'était pas possible. J'aurais besoin de comprendre.
Nous entendons la voix de Barbara Hannigan. Cesse notre boom, c'est une des plus belles voix d'aujourd'hui. Maintenant, elle est devenue une star internationale. Elle est dans tous les grands opéras contemporains de toute l'Europe. Qu'est-ce qu'une voix pour vous ?
Une âme. Mais je me rappelle, je ne l'ai pas bien connue, mais elle était dans un cercle des compositeurs d'Amsterdam. Elle est canadienne. Et je la vois encore sur sa bicyclette après des concerts. Et maintenant, elle chante aussi, par exemple, Alban Berg, Loulou, des choses extraordinaires. Mais surtout le début du Châté, c'était pas celle-là, mais le début du, de Socrate. Là, cette voix s'envole. Et va. Alors, si vous demandez qu'est-ce, une âme, oui. Avec ce pianiste aussi, Rembert Leokiev, pour nous expliquer ou enseigner, et non, il est maintenant presque mon âge, mais il nous a enseigné la musique moderne, contemporaine en tout cas, Courtag, tout ça, toute une série d'enregistrements qui sont classiques maintenant.
Mais vous parlez beaucoup au passé, de votre passé, Cesse Notebout, mais cette nostalgie du passé ressurgit dans certaines de vos pages de ce journal qui vient d'être publié. Je vais vous lire. Je n'ai jamais eu l'intention de faire de ces notes un journal. Je voulais aller au-dedans et non plus au-dehors. J'y étais depuis si longtemps et si souvent. Le sentiment d'être expulsé de mon temps et sans ménagement. Mon temps, expression équivoque. Vous êtes toujours de votre temps, vous vivez dans le temps présent, non ?
Oui, mais je vois des autres temps déjà autour de moi. Des gens qui parlent de artificial intelligence, d'algorithmes. Moi, je ne comprends pas ce que c'est quand je vois dans un article, les algorithmes, on a compris que c'est quelque chose avec un effet commercial, mais ce que c'est vraiment, je ne sais pas. Et là, je me sens dehors.
Dehors de votre temps ?
Oui, parce qu'il y a déjà un autre temps, parce que... Vous savez, s'il y a beaucoup de gens de... On dit maintenant de millennials, non ? Alors, ceux-là vivent déjà dans un autre temps. Leur passé sera impensable pour moi, finalement. Quand ils auront 85, leur passé sera tellement long dans le passé que je ne comprendrai plus.
Et est-ce que le fait d'avancer dans l'âge, cesse notre boom vous donne le désir de remonter dans votre temps. À l'intérieur de ce journal, vous évoquez l'hiver 45, 1945, quand vous étiez avec votre père dans un camion, on appelait ça l'hiver de la faim. Et là, il vous est arrivé quelque chose de très désagréable au cours de l'hiver 45.
Mon père est mort dans le bombardement de La Haye. Ça, oui.
C'était alors, juste avant la mort de votre père.
Il y avait l'hiver de faim à La Haye. Et mon père m'a envoyé vers la campagne. Et ces gens-là, dans le camion, m'ont donné des tartines avec du beurre. Et je suis devenu malade, oui, immédiatement. Parce que le corps ne pouvait plus soutenir cette nourriture forte.
Vous avez l'impression d'être un enfant de la Deuxième Guerre mondiale ? Un rescapé de cette Seconde Guerre mondiale ?
Oh, vous savez pas, enfin, le 10 mai, ça pour moi, ça sera toujours parce que les Allemands sont venus, on a vécu à côté d'un aérodrome militaire. Alors ce moment-là, du 10 mai 40, il y avait un bruit incroyable des Heinkel, Stuka et des parachutistes qui sont descendu juste derrière notre maison. Et mon père avait mis un fauteuil sur le balcon pour regarder, comme si c'était un théâtre. Tandis que moi, avec le bruit, apparemment, j'ai tremblé comme un... Moi, j'ai tremblé comme une feuille. Et on a mis de l'eau froide sur moi pour me calmer. Ça, c'est le début. Et j'ai toujours pensé que beaucoup de ma jeunesse, qui est le trésor pour... Les écrivains, comme Proust sans sa jeunesse, son première jeunesse. Mais avec ce moment-là, j'ai plus de mémoire de mes premières 6 ans. Alors je cherche, mais je trouve pas.
Je vous propose d'écouter la voix de Romain Gary, qui va parler de l'Europe. Comme vous le savez, nous sommes en pleine préparation des élections européennes. Et lui, en 1972, très exactement le 22 janvier 1972, il va en appeler à une Europe culturelle. Ce mot de Europe culturelle, on l'entend pas beaucoup en ce moment dans la campagne européenne. Écoutez les mots de Romain Gary.
Depuis que l'Angleterre est avec nous, je me sens moi seul. Je voudrais saluer Peter Townsend, qui représente pour moi la génération de la bataille de Grande-Bretagne, la bataille d'Angleterre que j'ai très bien connue et je suis fier de l'avoir connue. Mais quant au reste, excusez-moi, je serai très peu diplomatique, mais votre Europe de la choucroute, du cochon et du lard, votre marché commun qui se prétend Europe ne m'intéresse pas. L'Europe n'existe pas, elle n'a pas commencé, on ne sait même pas de quoi on parle lorsqu'on parle d'Europe.
Alors que devrait être votre Europe ?
Il devrait y avoir une Europe culturelle, il devrait y avoir une Europe humaine, une Europe politique dont on n'a même pas commencé à parler. Quant à l'économie et à la vente du cochon et du beurre, ça c'est une autre histoire.
Que pensez-vous des propos donc de 1972 de Romain Gary? Aujourd'hui, nous sommes en pleine campagne européenne et nous sommes en 2019. Et moi, rien n'a changé.
Non, je ne veux pas dire ça. Moi, je suis dans la Radio France. Je parle de la poésie avec vous. Alors, c'est pas cochon ni... Non.
Non, mais l'Europe...
Je ne veux pas. Je ne suis pas pessimiste comme M. Gary. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais il y a aussi des pays fantastiques et des... J'ai voyagé beaucoup en Espagne et en Italie. Je vois que la politique de l'Italie, au moment, est affreuse, mais quand même, le pays, on peut trouver tout ce qu'on a toujours pu trouver, quand même.
Alors qu'en Espagne, il vient d'avoir des élections qui, peut-être, indiquent...
Que peut-être, oui.
Une métamorphose et un avenir d'une certaine démocratie.
Non, non, je crois que il y a de la démocratie en Espagne, bien sûr, il y a. Mais il y a des partis, comme en Italie, qui ont un certain écho de temps qu'on pensait déjà passé. Ah non, ça non. Mais je vois aussi, ce matin, j'ai lu un article, il y a beaucoup de démonstrations partout. Mais à Vienne, qui est un pays qui vire vers la droite, il y a un groupe de grands-mères qui démonstrent maintenant, qui disent « On a trop écouté les derniers temps ce qu'on a eu, ce qu'on a entendu il y a longtemps. » Et ça, parce que nous sommes vieilles dames, nous savons d'où vient le danger. Peut-être, oui, ça.
Alors, les vieilles dames nous donnent des avertissements extrêmement utiles et revigorants, mais il y a aussi les très jeunes qui manifestent dans la rue, partout en Europe.
Avec la vieille dame, oui.
Avec les vieilles dames.
Très bien.
Et nous, au milieu, on peut quand même se dire que l'Europe a permis l'absence de guerre depuis 1945.
Oui, mais il faut toujours écouter les vieilles dames. Parce que, par exemple, les grands-mères du Place de Mai à Buenos Aires, dans le temps de la dictature argentine, ça a été très important. Et ils ont tenu le coup tout le temps, ces dames-là.
Alors, on va terminer peut-être sur votre observation du ciel, Cess Noteboom, qui est très présente à l'intérieur de ce dernier livre. Vous regardez le ciel, vous avez des étoiles que vous aimez particulièrement. C'est Cassiopée, votre ami, non ?
Cassiopée, il y a une raison. Parce que j'ai une maison à un certain endroit. Et quand je regarde la nuit, je vois toujours à une certaine heure Cassiopée. Et une heure plus tard, il y aura Orion. Orion, c'est mon étoile vraiment favori. C'est le chasseur aveugle qui cherche son chien.
Et vous dormez sous les étoiles ?
Non, les étoiles sont au-dessus du toit.
On va se quitter en évoquant Voyageurs 1 et 2, que vous évoquez beaucoup aussi à l'intérieur de cet ouvrage. Vous y pensez souvent ? À ces deux voyageurs qui sont partis, là, dans l'espace.
Ah oui.
Et qui avancent, et qui avancent, et qui ne nous donnent plus de nouvelles du tout.
Non, ils ne peuvent plus. Oui, ça a été une aventure. J'étais en train d'écrire cette histoire, l'histoire suivante. Et j'ai vu les deux voyageurs, parce que Smithsonian Institute in Washington, ils avaient refait un peu la scène. Comme si nous étions sur la Lune, dans le sable de la Lune. Et je les ai suivis pendant 25 ans. Et maintenant, ils ont quitté notre système solaire. Mais ils ne peuvent plus arrêter. ils vont... Et là, j'ai entendu un journaliste demander à une des dames qui ont accompagné ces missiles. Comment on dit missiles ?
Oui, oui, des sondes. Voilà.
Et il a demandé maintenant, la première étoile que les deux vont voir, ça sera quand ? Et elle a dit, ça sera à 40 000 ans. Là, ça vous donne un peu l'idée de l'espace. Parce qu'ils sont là, maintenant, on peut savoir exactement où ils sont, mais la première étoile, et ils vont avec une vélocité incroyable, ce sera dans 40 000 ans. Ça vous donne un petit peu perspective de où nous sommes, nous. Plus ou moins nulle part, non ?
Alors avant de nous retrouver dans 40 000 ans, on va se quitter. Je vais vous citer Cees Noteboom avec un dernier poème dans ce livre qui est sorti il y a très peu de temps. Un poème qui s'intitule « L'appel de l'autre rive ». Nous sommes d'autres rives frappées par l'insuffisance de notre voix qui s'élève anxieuse comme des oiseaux migrateurs attardés s'abattant anxieux avant la terre de promesses. Et il ne faut pas longtemps pour que tu ne puisses plus que jouer avec les mots jusqu'à ce que ta langue enfle de solitude comme un cœur dans ta bouche et si ton propre cœur te tuait de sa morsure. Point d'interrogation. Merci infiniment, Cees Noteboom. Votre dernier livre s'intitule 533, le livre des jours, et l'avant-dernier, Le visage de l'œil. Ils sont tous les deux publiés par Actes Sud et tous les deux traduits du néerlandais par Philippe Noble.
Est-ce que j'ai droit à un dernier mot?
Oui.
Pour expliquer le titre un peu énigmatique, 533 jours sont les jours où j'ai travaillé ce livre-là. Parce que j'avais pas de titre et je me suis dit, j'ai commencé là et je finis là. Alors, les éditeurs n'aiment pas le titre, mais moi, c'est... Je l'aime. Je l'aime.
Vous avez raison. Merci beaucoup. Cees Noteboom.
Dos contre dos dans des draps exquis. Chambre sur rue, embuée de whisky. Rien ne vaut ce lourd silence qui vient bercer mon imprudence. Tu m'as connue dans les bras d'un autre. Là, tu me connais au millimètre. La conscience peut m'embarrasser, mais je suis lâche. Je veux pas laisser ce regard bleu, bleu merveilleux, bleu. Nul ne voit le grand soleil qui fait briller dès le réveil ce regard bleu, bleu merveilleux, bleu amoureux qui n'ose guère.
Et c'est avec Bleu de Keren Anne que nous allons nous quitter ce soir, non sans avoir rappelé que l'actualité de 6 Noteboom, c'est le nouveau livre qui s'intitule 533, le livre des jours chez Actes Sud, comme tous les autres livres de 16 Noteboom. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Anne-Sophie Dazard, Mathilde Verfaillé et Pierre Dindy. Et merci à Lilian Allôme qui a réalisé cette émission. Maintenant, place à l'émission de la campagne officielle pour les élections européennes.